C'est encore un plaisir de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, ce merveilleux message que le Seigneur nous inspire, que le Seigneur nous donne pour nous édifier ou nous fortifier entre chrétiens, parce que nous savons que le combat, il est là pour chacun des chrétiens qu'on a à vivre. Nous sommes, comme dans la série que nous sommes en train d'étudier, nous sommes préparés pour la guerre. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes placé stratégiquement par notre maître, par le Seigneur Jésus-Christ, dans où ce que Dieu nous a établi, afin qu'on puisse travailler et œuvrer pour lui. Puis dans la série « Préparer pour la guerre », on a vu quels étaient nos combats, quels étaient nos ennemis. Nous avons vu aussi quels étaient nos alliés. On a vu deux alliés puissants pour les chrétiens, pour la guerre spirituelle que nous avons à combattre. Nous avons vu que Dieu est un de nos principaux alliés, est l'allié principal par lequel nous puissions marcher avec lui et pouvoir marcher dans la victoire. Mais on a vu aussi que les anges, Dieu avait une multitude d'anges autour de nous qui sont les alliés des chrétiens. Les anges sont des gens qui sont des êtres créés dans le but de travailler, de combattre avec les chrétiens dans l'œuvre qu'ils ont accomplie. Maintenant, nous allons voir un troisième allié pour tous les chrétiens. Chaque chrétien sur la terre est équipé d'une autre catégorie d'alliés qui sont là pour pouvoir aider chaque chrétien à avancer dans leur marche, puis dans leur guerre, dans leur combat. Le troisième allié, bien sûr, c'est les frères et sœurs dans la foi. Le corps de Christ. Dieu a établi le corps de Christ pour être un allié pour chaque chrétien. Le corps de Christ, quand il est bien ordonné selon la parole de Dieu, il est aussi un puissant allié pour nous aider à avancer dans le Seigneur puis nous aider à atteindre nos buts. Dieu veut pas qu'on marche la vie chrétienne seul. Dieu veut pas qu'on fasse les choses seul, comme retiré du reste du corps, puis pensant que c'est ça qui est notre combat. C'est Dieu qui a choisi que la marche chrétienne se fasse ensemble, que tous les chrétiens marchent main dans la main. Dieu veut que nous marchions avec les autres. Son plan n'a jamais été une marche individuelle. C'est une marche collective. Ensemble, on marche pour le combat, pour avancer dans l'œuvre qu'il nous a préparée d'avance. Il veut qu'on tire notre croissance de lui, parce qu'on sait que sans lui, on peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire dans la vie chrétienne, sans Jésus-Christ, ça sert à rien. Notre combat est par lui, mais en grande partie, ce qui vient de lui passe à travers des frères et sœurs. Parce que Dieu veut agir à travers de tous. C'est Dieu qui est l'auteur de tout. Mais il a quand même choisi qu'on travaille avec les autres, et Dieu veut utiliser les autres pour nous aider dans notre marche, dans notre combat, dans notre lutte. Une preuve qu'on a besoin des autres, s'il n'y aurait eu personne pour venir nous parler de Jésus, nous ne l'aurions jamais su. Puis s'il n'y aurait pas eu quelqu'un qui vienne un jour nous dire « Hey, tu connais-tu Jésus? T'as-tu entendu parler de la parole de Dieu? Tu sais-tu que t'es pécheur? Tu sais-tu que t'as besoin du salut en Jésus-Christ? » Puis là, le fait qu'il insiste, le fait qu'il prie pour nous, ça le fait qu'on accepte Jésus. Puis même une fois qu'on l'a accepté, s'il y avait eu personne pour nous enseigner, puis nous encourager, puis prier pour nous, on ne serait pas là aujourd'hui à marcher dans ses voies. C'est important qu'on réalise que Dieu a utilisé d'autres personnes pour nous amener à lui. Dieu a utilisé des gens qui prêchent à radio, des gens qui prêchent à télévision, des gens qui prêchent sur la rue, partout la parole de Dieu est annoncée, des gens qui prêchent dans nos familles, dans nos amis, dans nos voisins, nos compagnons de travail. Dieu utilise des personnes pour annoncer le message de l'Évangile. Il sert de ça pour aller chercher les autres. C'est dans le plan de Dieu que on travaille en équipe, qu'on faut réaliser que Dieu a établi le système comme quoi qu'il a mis les chrétiens à travailler ensemble pour accomplir sa mission. Puis, selon la parole de Dieu, on a plusieurs passages à aller voir aujourd'hui. Comment dois-je voir les frères et sœurs dans la foi? Parce que Dieu, il a une vision des choses. Dieu veut nous apprendre à regarder les frères et sœurs, à regarder son Église comme lui voit les choses. La première chose qu'on doit réaliser, c'est que nous avons tous le même Dieu. Dans Éphésiens 4, le verset 4, ça nous dit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. On voit dans ce passage-là qu'il y a un seul corps et un seul esprit. Dieu n'a pas répandu plusieurs esprits dans plusieurs personnes, non. C'est le même Saint-Esprit qui travaille dans son corps. Puis ça nous dit aussi qu'il y a un seul corps, son Église. Dieu veut travailler avec son corps, puis il y a aussi une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. On a toutes passé par le même chemin, on a toutes passé par Jésus pour pouvoir être pardonné de nos péchés, puis pour aller à Dieu le Père. Il faut toutes passer dans le même chemin qui est la parole de Dieu. Tout vient de Dieu. Nous avons tous le même Dieu. Puis il faut le réaliser, chaque frère et sœur dans l'Église font partie du corps de Christ, puis ils sont tous aussi importants. Ça l'a coûté le même prix à Dieu pour que chacun puisse être là. Ça l'a coûté le sang de Jésus-Christ, son Fils, qui était versé à la croix, pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés. C'est le même prix que Dieu a payé pour tous. Nous sommes tous un même corps abreuvé du même esprit, dans 1 Corinthiens 12:12 qu'on voit ça. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous tous, en effet, on a été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voyez-vous, dans ce passage-là, c'est clair. Tous les membres du corps, malgré qu'il y en a plusieurs membres du corps, on forme qu'un seul corps. On est tous des membres des uns des autres pour former le corps de Christ. Puis on est en Jésus-Christ. Puis on est tous abreuvés du même esprit. C'est le même esprit qui anime tous les enfants de Dieu, tous les êtres rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes de la même famille, un membre, il y a plusieurs membres, mais on fait tous partie du même corps. On est tous aussi importants les uns que les autres. Dieu, non, il fait pas de favoritisme, Dieu ne tire pas sur un bord ou tire sur l'autre, Dieu voit tout le monde égal. Moi, quand je regarde ma main, je vois plusieurs doigts, je vois mon annulaire qui... Mon auriculaire qui est tout petit, puis mon index qui est plus gros, puis mon index est autant important que mon auriculaire. Puis on a chacun une taille différente, un doit pas mépriser l'autre. Chaque doigt sert à quelque chose pour une fonction spécifique. C'est la même chose dans le corps. Dieu a établi tous les membres de son corps, tous des gens différents, qui viennent de nationalités différentes, même si tu seras juif, grec, esclave, libre, ça n'a pas d'importance. Dieu considère tous ces gens-là comme étant rachetés par lui. On fait tous partie du même corps. Puis Dieu veut nous abreuver du même esprit. On vient tous de la même place. Nous faisons tous partie du même royaume. Aussi, on fait partie de la même famille, nous formons le même édifice spirituel, un temple saint, une habitation de Dieu en esprit. C'est ce qu'on voit dans Éphésiens 2, le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, puis Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui... En Jésus, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dans ces passages-là, c'est clair. On n'est plus des étrangers. On était des étrangers. On était des gens du dehors. Mais quand on s'est converti au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur a pardonné nos péchés, il nous a donné son Saint-Esprit, il nous a arrachés du royaume des ténèbres, puis il nous a emmenés dans le royaume de la lumière. Nous faisons partie de la famille de Dieu. On n'est plus des étrangers, on n'est plus des gens du dehors, nous sommes devenus les concitoyens des saints. On fait partie de la ville sainte, on fait partie de ceux qui vont vivre dans la Jérusalem céleste pour l'éternité. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Tous les chrétiens font partie des saints et font partie des gens de la maison de Dieu. puis tous les chrétiens ont été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, puis Jésus-Christ est la pierre de l'angle. Basé sur Jésus, il y a tout un fondement qui a été installé par les apôtres puis les prophètes, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Ça nous est resté, on voit qu'on ne pouvait pas fonctionner nous-mêmes. Même notre origine en tant que chrétien, nous venons de la foi qui a été transmise aux saints par les chrétiens, par les apôtres, par les prophètes. Ils ont annoncé le message, d'autres l'ont annoncé. On s'est parvenu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux extrémités de la terre. On a entendu parler de la parole de Dieu. Nous avons adhéré à la parole de Dieu. Nous sommes devenus des chrétiens. On fait partie de la gang, la même gang. Tous les chrétiens sur la terre font partie de la même gang. Nous sommes tous des enfants de Dieu. On doit travailler ensemble, à combattre ensemble, parce qu'on fait partie de la même équipe. Puis en lui, en Jésus, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Voyez-vous, tous les chrétiens qui sont des saints, une fois que tout l'édifice est bien coordonné, quand on parle de bien coordonné, c'est que chacun a trouvé sa place, chacun est à l'endroit que Christ veut nous avoir. Dieu nous a placés dans son Église, il nous a choisis, il nous a établis afin qu'on aide, qu'on porte du fruit, que notre fruit demeure. Si nous sommes là, aujourd'hui, dans son Église, parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a amenés à être là. Puis là, on est coordonnés par lui, puis on est en train, ensemble, de s'élever pour être un temple saint dans le Seigneur. Nous sommes tous édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. L'ensemble des chrétiens dans l'Église, que ce soit dans l'Église locale ou dans l'Église universelle à travers toute la terre, les chrétiens sont l'habitation de Dieu en esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu. Christ habite en nous, le Saint-Esprit habite en nous, Dieu habite en nous. Puis nous sommes tous un temple saint dans le Seigneur. Puis c'est pour ça que ça nous dit dans la parole, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans l'Église, nous voulons voir la puissance de Dieu à l'œuvre, mais il faut apprendre à marcher ensemble, parce que c'est tous ensemble que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Puis la prière de Jésus, l'une des prières que Jésus a faites dans Jean 17, il veut que nous soyons un. Dans Jean 17, ça nous dit, Jésus est en train de parler à son Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voyez-vous, la prière de Jésus, c'est qu'on arrive, il nous a donné sa gloire, la gloire, c'est sa présence, son Saint-Esprit, sa parole. Il nous a donné tout ce qui vient de lui. Il nous a tout donné pour qu'on soit un. Comme Jésus était un avec son Père, il veut qu'on soit parfaitement un. Il veut qu'on arrive à être une unité. Que l'Église se sente faire partie de l'Église. Chaque membre de l'Église se sente faire partie des membres de l'Église. Afin qu'on devienne qu'un. C'est pas de Dieu quand les chrétiens cherchent à s'isoler des autres, puis à fuir les autres chrétiens, puis à trouver des excuses pour pas vouloir aller à l'église, puis joindre avec les chrétiens. C'est pas de Dieu de marcher séparé, puis de rester chez nous, ou de dire, j'écoute des prêches sur Internet, mais je suis pas intéressé d'aller à l'église. C'est faux. C'est une fausseté. C'est l'œuvre du diable. L'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre du Saint-Esprit, il veut nous amener à ce que nous soyons un. Il veut pas qu'on soit divisé. C'est le diable qui cherche à diviser, qui cherche à semer le trouble pour qu'on soit séparé d'avec les chrétiens. Dieu, lui, veut pas qu'on soit séparé des chrétiens. Il veut qu'on soit un ensemble avec les autres chrétiens. Qu'on apprenne à marcher ensemble, qu'on apprenne à vivre ensemble, qu'on apprenne à fonctionner ensemble, qu'on apprenne à travailler ensemble, qu'on apprenne à vivre ensemble notre vie chrétienne, parce qu'on nous sommes des alliés. Nous avons été ralliés par Jésus-Christ, puis nous sommes des alliés, des coéquipiers, des concitoyens. On fait partie de la même maison, puis il veut qu'on soit parfaitement un. Il veut pas qu'on soit la moitié de un, il veut qu'on soit parfaitement un. Un parfait. C'est quelque chose. Dieu veut que le monde voit, que le monde connaisse que Dieu nous a aimés, puis que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu le Père, puis que Dieu nous aime. Comment est-ce qu'ils vont voir que nous sommes de Dieu, puis que Dieu nous aime? À l'amour que nous aurons les uns pour les autres. C'est ce qu'on voit dans un autre passage. C'est ce que Dieu veut qu'on apprenne. Qu'on apprenne à marcher ensemble. Parce qu'on est de la même famille. Dieu a donné les ministères dans l'Église pour arriver à l'unité puis à la maturité dans le Seigneur. C'est ensemble qu'on travaille pour être édifié, fortifié puis de persévérer jusqu'à la fin. Mais pour arriver à l'unité puis à la maturité dans le Seigneur, Dieu a donné des ministères pour notre édification. C'est ce qu'on voit dans Éphésiens 4, le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, comme docteurs. Pourquoi qu'il a donné ça? Mais ça le dit au verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Voyez-vous, il y a deux choses. Il y a le but de l'œuvre, parce qu'on est tous appelés à travailler dans l'œuvre, puis il y a le but de l'édification du corps. Son perfectionnement, le perfectionnement des saints, l'édification du corps. Nous avons besoin des ministères que Jésus-Christ a donnés à son Église. Le but ultime, c'est jusqu'à nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voyez-vous, Dieu veut donner des dons spirituels et Dieu veut notre perfectionnement. Il veut que tous les chrétiens, tous ceux qui se sont engagés à le suivre et à le servir, il veut que tous se perfectionnent et tous profitent des ministères qu'il a donnés. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Si vous entendez un chrétien en train de parler contre les ministères, mais c'est pas de Dieu du tout. Il est dans le péché. Il est en train de dévier, il est en train de faire fausse route. Parce que le plan de Dieu est que nous joignions une église locale, que nous marchions en communion avec nos frères et sœurs, que nous profitions des ministères qui ont été donnés à l'église, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. C'est toutes des gens qui ont été placés là pour l'édification du corps de Christ, pour que chacun des chrétiens qui font partie du corps de Christ puisse grandir, maturir et puissent rentrer dans l'œuvre que Dieu a préparée pour eux, pour chacun de nous. Il veut que nous soyons tous parvenus à une unité de la foi, à une unité de la connaissance du Fils de Dieu. Tous les ministères sont là pour qu'on arrive à être un dans notre foi. Tous les faux raisonnements sont renversés par la parole de Dieu, par l'enseignement des apôtres, puis des prophètes, puis des évangélistes, puis des docteurs. Tous les enseignements que nous recevons, c'est dans le but de notre perfectionnement. Parce que Dieu veut nous amener à ce que nous soyons des hommes faits, à la stature parfaite de Christ. Il veut plus qu'on demeure pour rester des enfants. Quand on s'est converti, on est devenu un enfant de Dieu. Nous sommes des nouveaux-nés, spirituellement parlant. On est des bébés. On grandit. On mange spirituellement, on se nourrit, on se fortifie, on grandit. Mais Dieu veut pas qu'on reste bébé. Dieu veut pas qu'on reste des enfants. Il veut qu'on devienne des hommes de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu, qui travaillent dans l'œuvre de Dieu. Il veut qu'on soit le niveau, là, de maturité égal à la stature parfaite de Christ. C'est le but. Faut atteindre la perfection. Faut devenir comme des enfants de Dieu. Mais pas des enfants de Dieu, comme des hommes et des femmes de Dieu à la stature de Christ. Puis tout ça, les ministères, ça nous fait grandir, ça nous fortifie, puis ça nous amène qu'on devienne tellement mature et tellement unis qu'on va former un solide assemblage. On va être soudés ensemble, puis on va être un assemblage solide. C'est ce qu'on voit dans Éphésiens 4:16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convienne à chacune des parties, puis s'édifie lui-même dans la charité. Voyez-vous, c'est de lui, puis grâce aux liens de son assistance. C'est par Jésus et par les liens de son assistance. C'est qui ça, les liens de son assistance? C'est les ministères qu'a donné les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. C'est les assistants de Jésus-Christ. C'est les gens qui travaillent avec le Christ, que Dieu leur a donné des dons spéciaux pour pouvoir prêcher et enseigner la parole, pour former des disciples. Quand Jésus a dit aux 12 apôtres, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Il est important que tous les chrétiens observent en écoutant l'enseignement, parce que la Bible a dit que « Enseignez-leur à observer », c'est un enseignement qu'on reçoit comme des venants des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des enseignements qui nous amènent à maturité, qui nous amènent à devenir un solide assemblage. Il dit tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage, parce que nous sommes assemblés, nous sommes toutes des pièces séparées, des pièces différentes même, puis même quand avant d'être chrétien, on était loin d'être une pièce conforme pour pouvoir faire partie de cet assemblage. Mais il a fallu qu'il nous prenne, qu'il nous sorte de là, qu'il nous modèle, qu'il nous forme, puis nous assemble avec le corps de Christ, pour qu'avec le reste du corps de Christ, nous puissions être un solide assemblage, que nous restions soudés ensemble. C'est lui, Jésus-Christ, qui nous assemble avec les autres pièces, pour qu'on trouve notre place. Il faut se laisser former pour avoir exactement la forme que Jésus veut nous donner. Parce que c'est une forme précise pour un rôle précis que nous avons à faire dans son corps. Moi, j'ai un rôle à faire. Vous avez un rôle à faire. Chacun des membres du corps de Christ a un rôle dans cet assemblage. Puis Jésus-Christ nous assemble ensemble, puis il nous soude ensemble, puis qu'est-ce que Dieu est en train de faire? C'est quelque chose de solide. C'est pas quelque chose qui doit se démolir, puis que je rejette des pièces, puis que je désassemble que ce que Dieu essaye d'assembler. Dieu veut faire de quoi de solide avec son Église. Il veut faire une armée qui marche ensemble pour le combat. On a besoin les uns des autres. Puis une fois qu'on est ce solide assemblage-là tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Ça veut dire que Dieu a donné à chacune des pièces une résistance, une force, une capacité, puis Dieu sait de ça que sa capacité solide, bien placée au bon endroit, peut solidifier l'autre aussi, puis que l'ensemble des pièces sont solidifiées par les autres pièces, parce qu'on tire notre force les uns des autres. C'est tous ensemble qu'on travaille, puis qu'on avance, puis qu'on est solide en Jésus-Christ. Puis on s'édifie tout ensemble pour marcher dans la charité. On s'édifie nous-mêmes pour marcher dans cette charité qui fait partie de la parole de Dieu puis du plan de Dieu. Nous devons marcher dans l'amour en tant que chrétiens. Bon, si on veut voir un exemple biblique de la fraternité, puis de l'unité, puis du partage, comment ça doit être vécu? Bon, on le voit dans les Actes au chapitre 2, le verset 42. Les disciples, suite à la Pentecôte, il y a eu 3000 personnes qui s'est converties, puis dans cette église-là, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Voyez-vous, ils restaient pas chacun chez eux. Ils joignaient à l'église parmi les chrétiens, puis ils persévéraient à recevoir les enseignements. Jésus leur avait dit, enseignez-leur à observer. Mais fait que les chrétiens doivent être assis à l'église pour écouter les enseignements, pour être capable d'observer ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Fait que eux autres, les premiers chrétiens, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les fractions du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Puis il se faisait beaucoup de miracles par les mains des... beaucoup de miracles et des prodiges par les mains des apôtres, puis Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, puis ils avaient tout en commun. Voyez-vous la puissance de Dieu, quand Dieu veut assembler, faire de quoi de solide, toute la gang demeure ensemble, puis là, la puissance de Dieu se manifestait, les signes, les prodiges, les miracles. Ça nous dit qu'ils persévéraient en prière. On sait qu'il n'y a rien qui peut avancer sans qu'on prie, sans qu'on travaille entre chrétiens à marcher ensemble, la communion fraternelle. Puis c'est là que la crainte va s'emparer de tous quand il va se faire beaucoup de miracles, des signes, des prodiges, parce que on va vouloir marcher ensemble pour vouloir glorifier le Seigneur dans notre Église. Puis c'est là que l'Église apporte beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Paul, lui, avait compris le principe, lui tout, qu'il fallait qu'il transmette sa connaissance qu'il avait reçue. Il aurait pu dire, moi j'ai reçu la connaissance, là, m'arrangez-vous avec vos troubles, moi, je veux marcher, mais vous autres, apprenez à prier, puis à chercher vous-même la connaissance de Dieu. Non, c'est pas de même que Paul travaillait. Paul, il combattait pour les chrétiens par les enseignements, puis par des prières. Paul, il communiquait ce qu'il avait appris dans Colossiens 1:28. Paul, il nous dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair. Voyez-vous, l'apôtre Paul, il est en train de dire que tout ce qu'il avait appris, là, il l'annonçait. Il savait que Jésus-Christ était ressuscité, il a vu Jésus lui apparaître à plusieurs reprises, Jésus lui a enseigné la parole. Puis Jésus a dit à Paul, il dit, tu es un instrument de choix que j'ai choisi, puis je t'envoie vers les païens pour que tu leur fasses passer des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, puis qu'ils reçoivent par la foi en mon nom le salut, puis la connaissance, puis tout ce qui fait partie des promesses de Dieu. Paul y annonçait puis exhortait tout homme en les instruisant, parce qu'il sait que la parole de Dieu doit être prêchée, puis c'est avec l'enseignement de la parole dans l'Église que le peuple grandit puis se fortifie dans le Seigneur. Fait qu'il travaillait à présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Son but était d'amener chaque brebis du Seigneur, l'amener à être parfait en Christ. Son but, il veut que chaque chrétien devienne des hommes et des femmes de Dieu solides à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est le but. C'est pas juste devenu parfait parce que on a le sang de Jésus qui nous purifie, c'est vrai qu'on est déclaré parfait parce que le sang de Jésus nous purifie. Mais Dieu regarde encore bien plus loin. Il dit qu'il veut qu'on soit parfait comme lui-même est parfait. Il dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Dieu veut nous amener à la stature parfaite de Christ dans nos pensées, les pensées de Christ, les paroles de Christ, les agissements de Christ, les œuvres de Christ, les fruits de Christ, les dons spirituels de Christ. Dieu veut nous amener à vivre devenu parfait. Si vous ne l'êtes pas encore, mais continuez à aller à l'Église pour recevoir les enseignements, obéissez à vos serviteurs, soumettez-vous à Dieu, puis Dieu, il va vous bénir, puis il va vous transformer, puis vous allez devenir parfait en Christ. Puis c'est à ça que Paul travaillait, en combattant avec sa force qui agissait puissamment en lui. La puissance de Dieu est agissante en lui. Lui, Paul, il prêchait, puis il disait, « Nous renversons les raisonnements, toute hauteur, tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu, puis nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Le but de Paul est de prêcher la parole puis de renverser tous les faux raisonnements, toutes les fausses pensées, les fausses croyances. Dieu, il travaillait à travers de Paul pour amener les gens à devenir solides en Jésus-Christ, inébranlables. Puis c'est ce qu'il dit, « Je veux en effet que vous sachiez combien il est grand le combat que je soutiens pour vous. » Paul l'avait compris que nous sommes en guerre, puis qu'on était préparés pour la guerre, puis qu'il y a des gens qui sont là avec des dons de Dieu pour former des soldats, pour que tout ensemble on soit une armée qui avance au front, chacun à sa place, une armée invincible, parce que le Seigneur marche au-devant de nous. Hallelujah! Oui, le Seigneur marche au-devant de nous, puis nous avons la victoire à cause qui il ouvre les portes, puis il chasse les ténèbres, puis il nous enseigne la vérité, puis on est saint de vérité, puis on avance par la foi. Puis c'est à cause de cela qu'on est plus que vainqueur. Maintenant, de quelle manière peut être mon implication dans le combat pour les autres? Parce que c'est bien beau que Paul combat, Jésus a combattu, les apôtres ont combattu, mais chaque chrétien dans l'Église, Dieu nous appelle à être là pour recevoir les enseignements, pour qu'on grandisse, qu'on devienne solide. Puis après ça, je dois rentrer dans l'œuvre, je dois participer à l'œuvre de Christ, je dois être un participant, je dois travailler avec le Christ, avec les dons qu'il m'a donnés, avec les capacités qu'il m'a données, la compréhension qu'il m'a donnée, pour former d'autres disciples, puis en même temps pour les aider dans leur marche chrétienne. Parce que tout le monde, les faibles comme les forts, faut se rendre jusqu'au bout, faut persévérer dans la fin, persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Faut demeurer ferme dans le Seigneur, faut pas se laisser éloigner. C'est pour ça que le premier point que je crois que tout le monde peut à faire pour être s'impliquer dans le combat pour les autres, c'est la prière pour les autres. Dans Éphésiens 6, 18, c'est ce que ça nous dit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. C'est là qu'on revient encore au point de départ, que Dieu nous appelle à faire partie de l'Église de Jésus-Christ, puis être dans son corps, puis être là assis à l'Église pour participer, pour recevoir et pour donner. Si ça me dit prier pour tous les saints, ça veut dire il faut que je connaisse les besoins des saints. Il faut que je sois là pour pouvoir aller faire en tout temps toutes sortes de prières, de supplications, puis persévérer là-dedans avec une entière persévérance en priant pour tous les saints, pour que je puisse prier pour que les frères et sœurs puissent gagner leur victoire, puis qu'ils restent fermes après les avoir gagnés. C'est pas dans le plan de Dieu qu'on marche séparément avec l'Église. Dieu veut qu'on marche avec son peuple. Si vous même regardez la parabole quand il parle de ceux que quand Jésus-Christ va trier à la fin, mais qu'ils reviennent, puis après ça, il va donner la permission d'entrer dans le royaume éternel. Il dit, j'ai eu faim, m'avait donné à manger, j'ai eu soif, m'avait donné à boire, j'étais nu, m'avait vêtu, j'étais malade, mais vous êtes venu me visiter, puis en prison, tout ça. Les autres, ils ont dit, quand est-ce qu'on t'a vu? Il dit, chaque fois que vous avez fait ces choses, à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voyez-vous, Jésus-Christ, lui, il considère les œuvres les plus importantes, c'est tout ce que tu vas faire pour un enfant de Dieu. Tout ce que tu vas faire pour encourager, fortifier, aider, habiller, pour le nourrir, pour voir financièrement, tout ce que tu vas faire dans l'œuvre pour un enfant de Dieu, c'est comme si tu le fais à Jésus, puis Jésus va te le remettre. C'est important d'être là à l'Église pour apprendre à prier pour les saints. Il y a une autre chose qu'on peut faire tout ensemble, c'est un support mutuel, puis pratiquer la miséricorde. On a à apprendre à se pardonner, on a à apprendre à supporter les uns les autres. C'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ nous demande. N'oublions pas que le corps de Christ est formé d'êtres imparfaits. Cela peut arriver que les frères nous ont donné des déceptions, puis qu'ils sont pas toujours là quand on en a de besoin. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, ça l'arrive. Dieu l'avait prévu, puis il veut nous apprendre dans tout cela à pardonner, puis à les aimer par-dessus tout cela. Malgré qu'il nous arrive qu'on a des déceptions, malgré qu'on a vu que les frères et sœurs n'étaient pas toujours là, Dieu veut qu'on apprenne à passer par-dessus tout ça, puis il veut qu'on apprenne à pardonner à nos frères et sœurs, puis il veut qu'on apprenne à les aimer par-dessus tout ça. Il n'a pas demandé, il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est pas en restant chez nous qu'on démontre notre amour, puis c'est pas en restant chez nous qu'on va se dire ben je les ai pardonnés. Non. Si on les a pardonnés, on va se réconcilier. On va chercher à les revoir. Nous le savons que l'Église n'est pas formée de gens parfaits. Il cherche la perfection. Il va y avoir plein de choses qui vont être là encore puis qui vont nous blesser. Mais il faut demander de l'aide au Seigneur pour que le Seigneur nous aide à passer par-dessus puis qu'on puisse continuer à faire ce que Dieu nous demande dans l'Église. Dans Colossiens 3:12, ça nous dit, Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Même si on aura sujet de se plaindre, même si c'est vrai que l'autre nous a fait quelque chose, pardonnez-vous réciproquement. C'est un ordre. C'est quelque chose que Dieu nous demande de faire. Puis il dit, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Rappelez-vous la prière du Notre Père qui nous dit, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous le pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Puis là, Jésus rajoute à la fin de la prière, « Si vous pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » On veut-tu être pardonné? On veut-tu le recevoir, le pardon de Dieu? On l'a reçu à notre conversion. Mais si dans notre vie chrétienne, on pardonne pas, puis on n'aime pas nos frères et sœurs, la Bible a dit que nous sommes des meurtriers, puis que nous ne marchons pas dans la vérité, puis nous nous séduisons nous-mêmes. On peut tout aller lire ça dans la première épître de Jean. Je vous encourage à aller la lire. Puis ça nous dit aussi qu'aucun meurtrier que la vie éternelle demeure en lui. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu vas rechercher la réconciliation, tu vas aller dans une église locale, tu vas aller écouter la parole de Dieu, puis tu vas aller donner de ce que tu es, de ce que tu as comme reçu de Dieu pour donner, pour encourager pour les frères et sœurs. Tu vas passer par-dessus, puis tu vas les aimer. Tu vas apprendre à les aimer. C'est pas automatique, c'est quelque chose qui s'apprend. Une autre chose qu'on peut faire ensemble pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour s'impliquer dans le combat pour les autres, c'est d'aligner nos sentiments pour les frères et sœurs. Dans Romains 12, 15, ça nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. » Ça, là, il nous dit ça, c'est parce que c'est important que nous ayons les mêmes sentiments. C'est pas normal qu'on rit quand les frères et sœurs pleurent. C'est pas normal non plus qu'on pleure quand ils rient. Il faut apprendre à avoir les mêmes sentiments. Si ça nous dit « ayez les mêmes sentiments », c'est parce qu'il faut s'enligner pour les avoir. C'est peut-être pas quelque chose d'automatique qu'on soit sensible. Notre niveau de sensibilité est différent d'une personne à l'autre. Mais il y a une chose, la Bible nous demande qu'on fasse un effort, puis qu'on s'aligne dans nos sentiments les uns pour les autres. S'il y a des frères et sœurs qui ont besoin d'être relevés, dans leur combat, dans leur lutte, ils ont peut-être chuté, ils ont peut-être eu des problèmes. Je dois être là pour les relever, pour leur donner des paroles d'encouragement, pour les aider à avancer, pour les aider à persévérer, parce que je participe à leur combat, puis je les aide à gagner leur victoire. Un autre point qu'on doit regarder, c'est l'entraide qu'on peut avoir entre chrétiens pour nous aider dans notre marche puis dans nos combats. L'entraide manuelle, matérielle, monétaire. Dans Romains 12, 13, ça nous dit « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » C'est quelque chose de chrétien de pourvoir aux besoins des autres chrétiens. C'est de Dieu, ça fait partie du plan de Dieu. Dieu veut se servir de moi pour bénir les autres. Il veut se servir de ce que j'ai, de ce que je suis, pour bénir les autres. Il veut qu'on pourvoie. Si quelqu'un a besoin, mettons, il veut faire un déménagement, il a besoin d'un coup de main. C'est normal qu'un chrétien s'offre pour pouvoir aller y aider à déménager. Si quelqu'un il a besoin que tu y prêtes de l'argent pour pouvoir se faire un achat pour quelque chose, c'est normal qu'on s'entraide. C'est normal qu'on donne un livre à un chrétien qui va aller à l'église le dimanche, puis des fois, ils ont pas proche de chez eux en plus, puis on n'ose pas l'emmener parce qu'on dit que ça nous dérange. Ça, c'est pas normal. C'est normal qu'on s'arrête pour ramasser ce chrétien-là, puis l'emmener à l'église, puis le ramener. Puis on s'occupera de nos activités après. C'est normal que les chrétiens le fassent, qu'on aide les autres, à ceux qui ont moins d'argent, puis qu'on les embarque dans notre char, puis qu'on les emmène. C'est bien beau qu'on ne veut pas plier les sièges de notre voiture, mais il faut quand même arriver à comprendre que la voiture, elle appartient au Seigneur, le gaz qu'il y a dedans avec, puis mon argent, puis ma santé, puis ma vie, puis mes biens appartiennent au Seigneur. Puis le Seigneur veut utiliser ce que j'ai, ce que je suis, ce que je peux faire pour pouvoir aider puis bénir mes frères et sœurs. Je suis en train de participer au combat quand que je fais ça. Et l'autre chose que je peux faire, comme au jeune âge, j'en ai souligné un peu, mais le soutien financier de l'œuvre de Dieu, c'est important que les chrétiens pensent à cela. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 9, le verset 8, ça nous dit, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, mais vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Voyez-vous, Dieu, il veut nous bénir, puis il peut nous bénir, il peut nous combler, il peut nous donner en abondance, encore plus même que qu'est-ce qu'on a présentement. Il veut qu'on profite, qu'on soit comblé dans tous nos besoins, mais il veut nous en donner encore plus, pas nécessairement pour notre confort, notre luxe, puis notre over, pour en avoir un over, puis que ça se gaspille. Il veut qu'on aille encore plus pour être dans l'abondance pour toute bonne œuvre, pour qu'on puisse donner dans son œuvre. Dieu, il place des ouvriers en mission autour de nous. Il y a des gens qui sont impliqués à la radio, des ministères de télévision, des ministères d'évangélisation de porte à porte. Il y en a d'autres qui sont dans le métro à distribuer des pamphlets. Il y en a d'autres qui sont dans les parcs, dans les rues, sur Internet. Il y a des ministères partout en train de s'impliquer. Il y a le pasteur lui-même à l'église à où est-ce qu'on va. On doit participer financièrement à l'avancement de l'œuvre pour l'Église. Mais on doit aussi aider les missionnaires, les ceux qui nous entourent, ceux qui sont là comme des émissions de radio, qui font des émissions de radio. Ça coûte cher pour pouvoir répandre le message de l'Évangile. Il devrait y avoir des stations de radio dans chaque ville. Il s'agit que des chrétiens aient la vision puis qu'ils s'unissent ensemble pour aller chercher un permis pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle sur les ondes. Puis ça fait partie du plan de Dieu qu'on aide ces ministères-là dans la prière puis par notre présence, par qu'est-ce qu'on peut faire, mais aussi des aider financièrement pour que l'œuvre de Dieu puisse rester en place. Moi, je fais partie d'un ministère de radio à Montréal pour ouvrir une station de radio, puis nous sommes présentement en onde sur la station de radio juive. J'ai une émission qui s'appelle Radio Évangélique. Vous pouvez aller écouter les messages sur mon site internet publication-évangélique.com. Mais tout ça pour vous dire que cette œuvre-là a besoin de soutien financier. Nous sommes là en onde 25 heures par semaine pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ sur les ondes de Montréal, puis sur Internet à l'année longue, à la semaine longue. Puis, on a besoin d'aide financièrement. Puis, c'est pas normal que les chrétiens soient pas là pour soutenir ces missions-là. C'est des œuvres missionnaires dans notre territoire. Dieu veut prêcher la parole, puis c'est impossible que les gens soient sauvés sans entendre parler de la parole. Puis Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson, des gens qui sont là en train de prêcher la bonne nouvelle. Puis Dieu veut qu'on puisse aider dans la prière surtout et dans le soutien financier pour pouvoir faire avancer cette œuvre et pour qu'elle persévère. J'ai entendu toutes sortes de choses comme mais ça fait 5 ans qu'ils sont là, ça doit être de Dieu. C'est que les gens, ils n'ont même pas une ouverture d'esprit pour réaliser que l'évangélisation, c'est de Dieu. Même si ça ferait 15 minutes que la station de radio est en onde, puis elle vient d'ouvrir, c'est le plan de Dieu qu'on soit en onde pour prêcher la bonne nouvelle, puis que la parole de Dieu puisse être annoncée. C'est le plan de Dieu que je dois l'appuyer dans la prière, puis de bénir le Seigneur, qu'il y ait des gens qui sont là en train de mettre de leur temps, puis de leur force, de leur énergie pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le plan de Dieu que ces ministères-là soient soutenus, que les églises arrêtent de considérer juste leurs propres besoins personnels, mais qu'ils unissent, qu'ils envoient des gens pour s'impliquer, qu'ils aident financièrement, qu'ils montent des équipes de prière pour prier pour ces ministères d'évangélisation. Nous avons besoin de soutien dans la prière puis dans le soutien financier. Puis ça fait partie du plan de Dieu de vous donner en abondance pour que vous ayez en surplus même pour pouvoir donner dans son œuvre. Considérez l'œuvre de Dieu, puis Dieu va vous bénir. Il peut vous combler encore plus, puis il va le faire parce qu'il est fidèle à sa parole. Il y a d'autres moyens que je peux combattre pour les frères et sœurs. C'est en recherchant les dons spirituels pour l'intérêt des frères et sœurs. Si je recherche les dons spirituels, c'est pas pour que je sois élevé, puis que je sois bien vu, puis que je sois considéré, puis qu'on m'appelle monsieur. Dans 1 Corinthiens 14, 12, ça dit de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Dieu veut qu'on cherche à en posséder abondamment des dons spirituels. Il veut les donner abondamment. Il veut en donner beaucoup de dons spirituels. Sauf, il dit, quand tu recherches, cherche à les posséder pour l'édification de l'Église. C'est important que tu sois là à l'Église, puis que tu pries Dieu pour avoir des dons spirituels. Si les dons se manifestent pas à l'Église, peut-être parce qu'il manque certaines personnes qui devraient être là en train de les exercer. Puis peut-être qu'il manque certaines personnes qui ne prient pas pour exercer ces dons-là. Puis là, c'est là que l'œuvre de Dieu est paralysée à cause que les frères et sœurs sont pas là pour accomplir ce que Dieu s'attend d'eux. Dieu veut qu'on soit là dans l'Église, puis qu'on travaille ensemble pour participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Puis que je prie pour les autres, puis je cherche la face de Dieu, puis que Dieu me donne les dons spirituels, puis que la puissance de Dieu peut être relâchée à l'Église avec toutes sortes de dons spirituels, puis que le peuple de Dieu soit édifié, fortifié, puis dans leur combat, ils remportent les victoires. Gloire à Dieu, hallelujah! Une autre manière qu'on peut, c'est d'exercer nos dons. Toutes nos capacités, nos dons, nous pouvons les mettre au service de Dieu pour faire avancer l'œuvre de Dieu, puis nous allons être des alliés, des parfaits alliés pour aider les autres chrétiens à marcher dans leur vie chrétienne. Dans 1 Pierre 4, 10, elle dit, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » C'est important, frères et sœurs, qu'on mette nos dons au service des autres. Sinon, on les enterre. Puis nous sommes comme la parabole du serviteur inutile qui a enterré ses dons, puis qu'il n'a pas eu aucun intérêt de ce qu'il avait reçu, aucun fruit, puis le Seigneur Jésus-Christ va y enlever ce qu'il avait, puis il va le donner à celui qui en a 10. N'enterrez pas vos dons, mettez-les au service des chrétiens dans l'Église. Servez le Seigneur à travers les frères et sœurs. Mettez au service des autres les dons que vous avez reçus, parce que vous êtes là pour être administrateur de ce que Dieu vous a confié. C'est quelque chose de bénissant. On n'est pas là pour démolir le peuple de Dieu, puis démolir les églises, puis démolir les ministères. Nous sommes là pour les soutenir, puis travailler pour les bâtir, puis les édifier, pour que ça puisse être un solide assemblage. Que tout ensemble, que puissions être une habitation de Dieu en esprit. Quand il nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Vous voulez voir le Seigneur dans l'Église? Cherchez la paix et la sanctification. Cherchez à travailler dans l'unité, dans l'amour, dans le pardon avec les frères et sœurs, puis on va voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans l'Église. Nous formons le corps de Christ, puis notre efficacité pour le soutien et l'édification des frères dépend de notre implication et de notre fidélité. Autrement dit, l'Église va grandir, puis va s'accroître, puis elle va être efficace. Toute l'efficacité va être égale à l'effort, puis mon implication, puis ma fidélité. Je dois faire des efforts, je dois m'impliquer, puis je dois demeurer fidèle dans ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a confié pour faire avancer l'Église de Jésus-Christ. On va faire une prière ensemble. Je vous invite à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ si vous ne l'avez pas encore faite. Puis si vous l'avez faite, à demander pardon à Dieu, puis joindre une église locale. Peut-être vous avez eu des déceptions, vous avez eu des choses qui vous ont déplu, puis vous avez quitté l'église. Je vous encourage à retourner à l'église, puis de vous humilier sous la puissante main de Dieu, puis il va vous élever, puis il va vous utiliser, puis l'église va s'accroître, puis le peuple de Dieu va grandir dans la foi, puis tout le monde va être heureux au bout de la ligne, puis on va remporter les victoires. Prions. Père, c'est dans le nom de ton Fils Jésus que je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que Jésus est mort sur la croix pour verser son sang afin que je puisse être pardonné. Je crois que Jésus est mort pour moi, puis je l'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Maintenant, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit et donne-moi de marcher en communion avec toi tous les jours de ma vie, que je puisse persévérer à te suivre, à te servir jusqu'à la fin. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Puis en même temps, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont abandonné le travail, abandonné le champ missionnaire, abandonné l'Église à cause de toutes sortes de raisons. Je te demande, Seigneur, de les ramener. Je te demande de ramener les rétrogrades, Seigneur, de tous ceux qui ont pris leur recul face à l'Église. Ramène-les dans tes voies. Produis un œuvre, Seigneur, pour pouvoir attirer tous ces gens-là, puis pouvoir les intégrer parfaitement pour qu'ils puissent retrouver leur place, qu'ils puissent fitter dans le solide assemblage dans lequel tu veux nous faire fitter, pour qu'on puisse tous ensemble être un solide assemblage qui tire sa force les uns des autres, qu'on ait un accroissement pour devenir une habitation de Dieu en esprit. Je te demande de bénir les gens puis de les renouveler dans ta présence, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.